êtes bien sur RFI, il est 23h à Paris.
24h en France.
Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous consacré à l'actualité française.
Mathis Limano.
Mayotte à la une et la situation une semaine après le passage de Chido. Un contingent de soignants et un hôpital de campagne envoyé sur l'archipel. Mais les rescapés, eux, manquent de tout. Quand est-ce que l'aide arrive ? Eau, nourriture et l'essence qui permet aux générateurs de fonctionner. Ce samedi, des files de voitures de plusieurs kilomètres s'allongeaient devant les stations-service. Reportage à suivre de nos envoyés spéciaux. Mayotte et la solidarité qui s'organise sur place et en métropole. Manifestation en soutien à Marseille cet après-midi. Et pour collecter des dons, RFI y était. Au large de la Bretagne, un navire russe en très mauvaise posture, on y vient. Et puis le premier bilan de l'abaissement de la vitesse sur le périphérique parisien, et vous l'entendrez, il est plutôt positif.
RFI.
À Mayotte, les habitants tentent de survivre après le passage du cyclone Chido. L'archipel manque de tout, eau, vivres, électricité. Dans de nombreuses zones, l'aide se fait encore attendre. Et en ce premier jour de week-end, on pouvait observer de longues files d'attente devant les quelques supermarchés qui ont réouvert. La queue aussi, aux stations-service, parfois pendant plusieurs heures. L'essence essentielle pour alimenter les générateurs. Reportage à Mamoudzou de nos envoyés spéciaux Jadel Khoury et Nicolas Feldman.
La file de voitures sur le bas-côté s'étend sur quelques kilomètres sous les manières patientes depuis la veille pour faire son plein.
Ça fait plus de 20 heures qu'on est là et nos véhicules sont encore derrière. Moi, j'ai du mal à comprendre quand on est dans une île où on a quand même Total qui a le monopole quand même sur l'île. On aurait pu quand même faire un peu d'effort.
Le manque d'essence touche toute la population tout près de la pompe. Une trentaine de personnes patientent avec des bidons.
L'essence, on va les mettre dans une monteur pour le générateur électrique. En fait, parce que le congélateur, il n'y a plus l'alimentation, ça va pourrir. C'est pour ça qu'on est venu chercher de l'essence. Il y a des limites, ils ont dit 30 litres, c'est bon, il n'y a pas plus.
Les policiers répartissent les automobilistes. À droite, une file est réservée aux véhicules prioritaires.
Police, gendarmerie, infirmières, les agents pénitentiaires et autres.
C'est le cas aussi des agents de la compagnie des eaux. Ce salarié peut remplir sa voiture.
Nous, c'est la SMAE. Donc la SMAE, c'est le service tout ce qui répare les tuyaux, tout ce service, tout ce qui est de l'eau. S'occupe de l'eau.
L'essence, comme tout à Mayotte, est une denrée rare. Si les prix des carburants ont été bloqués par l'État, au marché noir, le litre pourrait se revendre entre 3 à 4 fois plus cher. À Mamoudzou, Nicolas Feldman, Jadel Khoury, RFI.
Le dernier bilan des victimes à Mayotte fait état de 35 morts et 78 blessés graves. Un bilan encore provisoire et très difficile à consolider, indique le ministère de l'Intérieur, qui précise que l'hôpital de Mamoudzou est désormais opérationnel à 50%. Et quand l'État tarde à porter assistance aux rescapés, eh bien c'est la société civile qui s'organise. À Marseille, 200 personnes étaient réunies cet après-midi à l'appel d'associations de Mahorais. Parmi elles, Tahamida, elle l'assure, la solidarité se met en marche.
On a récolté énormément de dons. On était en train de trier tout ce qui est les habits, mais pas que. On a réceptionné les denrées alimentaires. Il y a eu énormément de packs d'eau qui ont été mis dans les palettes. Se retrouver avec une bouteille par famille, c'est pas évident. On ne tient pas avec une bouteille par jour. Là, il prévoit 6 camions pour pouvoir ramener à Lyon et pouvoir envoyer tout ça par conteneur. On a eu des chiffres de la ville de Marseille qui ont quoi, ils avaient donné 50 000 euros, mais c'est des chiffres. Mais concrètement, nous, on a besoin du concret. Les gens ont besoin du concret, pas juste donner des chiffres, des estimations. Et quand ce qui permet de redire ça, c'est vraiment quand on a la famille qui sont sur place, qui mettent sur, dès qu'ils ont un peu de réseau, SOS, on meurt de soif, SOS, SOS. Quand on entend ces chiffres, on dit non, c'est pas possible. On nous balance d'énormes chiffres. Or, sur place, il n'y a rien. Après, je peux comprendre. Ça prend du temps.
Voilà, cette Mahoraise dans la manifestation marseillaise. Elle répondait au micro de Léopold Picot.
24 heures en France.
Et moins de 24 heures maintenant avant de connaître le prochain gouvernement. Promesse de François Bayrou, ou en tout cas avant Noël. Un gouvernement sans Laurent Wauquiez. Le chef de file des Républicains a décliné aujourd'hui la proposition du Premier ministre sans exclure que des membres de son parti y participent. Emmanuel Macron, lui, rentre à Paris demain matin. Il était à Mayotte avant une tournée africaine express à Djibouti et en Éthiopie. Emmanuel Macron qui a salué un grand moment pour la filière nucléaire française, car c'est officiel. Après 17 ans de chantier, dont 12 de retard, le réacteur nucléaire EPR de Flamanville a été raccordé au réseau électrique français. Ce réacteur de dernière génération atteindra les 100% de sa puissance à l'été prochain. Au large des côtes bretonnes, ce navire russe en grande difficulté, son nom le Sparta, il fait partie de la flottille dépêchée en Méditerranée afin d'évacuer des matériels sensibles présents en Syrie, et ce depuis la chute de l'allié de Moscou, Bachar el-Assad. Le récit de Franck Alexandre.
Mardi 17 décembre, 21h51, la nuit est tombée sur la toujours très agitée mer d'Iroise. C'est alors que retentit l'alerte. Les autorités maritimes ont détecté une anomalie sur la voie descendante du rail Douai 100. Le porte-container russe Sparta, 120 mètres de long, est visiblement en grande difficulté.
J'ai des problèmes, j'ai actuellement les moteurs en panne, la barre ne répond plus, on essaye de réparer dans les prochaines minutes.
Sans moteur, le navire va alors, durant 61 minutes, subir une dérive non contrôlée dans une mer formée au milieu des autres bateaux.
What was the problem on board?
Tout est réglé, tout fonctionne, on reprend notre cap.
Après avoir refusé toute assistance, le Sparta finit par reprendre sa route, sa très longue route vers la Méditerranée, mais sans avoir pu cacher à la marine française son triste état, véritable reflet d'une marine russe qui peine à maintenir ses navires au meilleur standard.
Franck Alexandre, premier bilan pour l'abaissement de la vitesse sur le périphérique parisien. Passé de 70 à 50 km/h, les objectifs semblent en passe d'être tenus. Moins de bouchons, moins d'accidents, moins de pollution et moins de bruit. L'initiative parisienne est d'ailleurs regardée de près ailleurs dans le monde. D'autres mégalopoles pourraient s'y mettre. Précision Simon Rosé.
Moins 20% de bouchons, moins 20% d'accidents, un bruit diminué de moitié, un quart de particules fines en moins et des rejets de dioxyde d'azote en diminution de 13%. Les effets de la réduction de la vitesse maximum sur le périphérique parisien sont là et pas au détriment des automobilistes. La vitesse moyenne et le nombre de véhicules sont eux restés stables. Une évaluation réalisée sur les mois d'octobre et novembre 2024, les deux premiers complets depuis l'entrée en vigueur de la mesure et comparée avec la même période l'an dernier. Il manque cependant encore des données sur les autres grands axes pour voir si une partie des nuisances s'est reportée sur d'autres portions de la voirie parisienne. Cela dit, les premiers enseignements sont donc bons et sont suivis non seulement par l'exécutif de la capitale française, mais également par d'autres grandes villes dans le monde, principalement en Europe, où des mesures similaires sont engagées ou en projet. Oslo roule elle aussi à 50, Copenhague l'envisage, et des villes comme Berlin, Madrid ou Rome ont déjà abaissé les vitesses limites de leur périphérique à 70 ou 80 km/h.
Un week-end de 32e de finale de la Coupe de France et comme chaque année, déjà son lot de surprises. Le Puy Foot 43 en fait partie. Ce club évolue en National 2, la 4e division française, et ils ont étrié Montpellier, pensionnaire de Ligue 1, sur le score de 4-0. Une performance héroïque pour le club amateur dont l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, actuel entraîneur du club héraultais, Jean-Louis Gasset, se serait bien passé. Il ne digère pas la prestation de ses joueurs.
La honte. Un sentiment de honte. C'était une compétition qui pouvait nous donner un peu d'oxygène. On va bien l'analyser parce que on a été balayé. On a perdu tous les duels. On a manqué les deux premières occasions. Peut-être si on avait ouvert le score. Mais mentalement, c'est très inquiétant. Depuis que je suis arrivé, on a fait de nombreux matchs à l'extérieur. On n'a pas pris un point. On n'a pas marqué un but. Ça veut dire que la situation était importante. Là, j'espérais que dans une autre compétition, on puisse montrer plus de qualité mentale. Là, on a abandonné.
Voilà, c'était Jean-Louis Gasset, le sélectionneur de Montpellier. Je vous le rappelle, Montpellier, déjà sorti de la Coupe de France par un club amateur. Jean-Louis Gasset répondait au micro de RMC. Et un autre club de Ligue 1 est tombé lors de ses 32e. Il s'agit du Havre, le Havre qui s'est incliné sur la pelouse du stade Briochin. Et enfin, cette dernière rencontre de la journée qui s'est achevée il y a quelques instants. Strasbourg valide son billet pour les 16e de finale, 3-0 sur la pelouse du RC Calais. Et puis, pour refermer votre journal 24 heures en France, la mort d'une figure populaire de la télé dans les années 2000, Marie-Thérèse Ordonez, plus connue sous le nom de Maïté, avait 86 ans. Elle avait animé avec gouaille des émissions culinaires à succès, dont La cuisine des mousquetaires. RFI, il est presque 23h10 ici à Paris. Merci à vous d'avoir suivi ce journal.